On va laisser la parole donc à Madame Kervella, qui est enseignante en droit social, et donc qui va nous présenter en une demi-heure, elle va faire à peu près une synthèse sur les impacts de l'ordonnance sur le droit négocié. Alors on se situe par rapport au programme de CEJM dans le thème 5, sur une partie du thème 5, hein, notamment le droit négocié et les partenaires sociaux. Et voilà, c'est quelque chose d'assez brûlant, donc on profite un petit peu de l'opportunité pour avoir cette actualisation de savoir qui sera le pain quotidien de l'ensemble d'entre vous, puisqu'il faudra toujours réactualiser ces savoirs.
Bonjour, donc navrée de devoir aborder ce thème en fin de journée. Donc je vais traiter de la question des impacts des ordonnances Macron sur le droit négocié. Alors plus exactement, c'est l'impact d'une ordonnance, l'ordonnance 1385, qui est relative au renforcement de la négociation collective dans l'entreprise. Alors s'il fallait résumer l'esprit, en tout cas la volonté politique qui a influencé cette réforme, je dirais que c'est la volonté de créer un droit sur mesure, au plus près de la réalité du terrain, et de s'éloigner donc de règles impersonnelles, donc un droit commun du travail, tel qu'on peut le trouver dans le Code du travail. Alors, je structurerai ma présentation de la manière suivante. D'abord, quelques prérequis sur le droit négocié, car c'est assez technique, et je pense que c'est important pour les développements qui vont suivre. Et ensuite, donc, examiner quels sont les impacts de l'ordonnance, principalement sur la hiérarchie des sources du droit du travail, de manière automatique, donc, sur le rôle des partenaires sociaux. Et je terminerai par un exemple, la rupture conventionnelle collective, qui est justement un exemple de ce que l'on peut faire en termes de négociation d'entreprise. Alors d'abord, qu'est-ce que le droit négocié ? Donc, le droit négocié, c'est le droit qui est issu de la négociation collective, hein, c'est-à-dire que c'est le droit qui naît de la concertation entre les partenaires sociaux. Alors d'un côté, les salariés, avec donc les organisations syndicales représentatives. Alors je vais juste m'arrêter sur cette notion de représentativité. Il faut savoir que tous les syndicats n'ont pas le même poids dans l'entreprise. Certains sont représentatifs, d'autres non. Donc c'est une différence de légitimité. Et à partir de quoi se calcule cette légitimité, enfin s'évalue cette légitimité par rapport aux valeurs qu'ils adoptent, mais surtout par rapport à leur taux d'audience. Sachant que quand il y a des élections professionnelles, à savoir les élections du délégué du personnel, du comité d'entreprise actuellement et à l'avenir, au fur et à mesure de renouvellement des mandats du comité social et économique, hein, comme vous le savez, qui fusionnera ces trois institutions, eh bien, ce sont donc les syndicats qui présentent des candidats et qui vont donc obtenir un taux d'audience en fonction du score que leur candidat obtiendra. Donc, pour exemple, pour qu'un syndicat soit considéré comme représentatif dans une entreprise, il faut qu'il ait obtenu à peu près 10%, enfin, au moins 10% des votes lors de ces élections professionnelles. Et ces syndicats représentatifs ont donc des pouvoirs bien supérieurs, et c'est notamment seulement ces syndicats représentatifs qui pourront désigner des délégués syndicaux qui seront habilités à négocier dans l'entreprise. Donc, de côté employeur, il s'agira donc des organisations patronales, ou s'il s'agit de négocier au niveau de l'entreprise, ça sera donc des employeurs. Alors, dans quel but ? Dans le but de conclure donc ce qu'on appelle des textes conventionnels. Il existe deux catégories de textes conventionnels, les conventions collectives d'une part, et d'autre part, les accords collectifs. Alors, qu'est-ce qui distingue ces deux types de textes ? Eh bien, c'est le champ d'application. La convention collective a pour vocation à traiter de l'ensemble des thèmes qui peuvent être traités dans la négociation collective, à savoir les conditions de travail, d'emploi, les garanties sociales et la formation professionnelle, alors que l'accord collectif n'a vocation à ne traiter qu'un thème. Par exemple, on va parler de la convention collective de la métallurgie. là où on parlera de l'accord collectif concernant le télétravail ou sur l'égalité homme-femme. Alors, quel est le rôle du droit négocié? Donc, premier rôle, c'est prendre en compte, comme on l'a dit, les spécificités du secteur concerné ou de l'entreprise, de manière à donner de la flexibilité aux entreprises et permettre également une logique de coopération et non d'affrontement entre les partenaires sociaux. Alors, on négocie à quatre niveaux. Quand on décide de négocier sur un thème qui est universel, on va négocier au niveau interprofessionnel et à l'échelon national. Quand on veut négocier pour tenir compte de certaines spécificités qui sont propres à un secteur, eh bien, on va négocier au niveau de la branche. Quand on veut tenir compte des spécificités plus locales, eh bien, les partenaires sociaux décideront de négocier au niveau du groupe, au niveau de l'entreprise, voire de l'établissement. Et c'est justement cette négociation qui fait l'objet des principales mesures des ordonnances Macron, car comme je vous le disais en entrée, l'objectif, c'est de faire un droit adaptable pour les entreprises. Voilà, donc l'ordonnance 1385 vise essentiellement la négociation d'accords au niveau de l'entreprise. Alors, donc, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Quels sont les impacts de l'ordonnance sur le droit négocié? Alors, j'ai trouvé que ce petit dessin illustrait bien la volonté actuelle avec la confrontation d'aspirations donc opposées. D'une part, celle des employeurs qui voudraient finalement réduire au maximum ce que prévoit le Code du travail pour plus de flexibilité. Et de l'autre, les salariés très attachés au socle de protection minimum que leur offre le Code du travail. Donc en gros, ce serait, pour les employeurs, ce serait la flexi-sécurité, mais sans l'aspect sécurité. Alors, on va dans un premier temps étudier les impacts de l'ordonnance sur la hiérarchie des sources du droit du travail, car c'est le principal thème qui est abordé dans les ordonnances. Alors, cette place du droit négocié doit être appréciée à un triple niveau, d'abord par rapport à la loi, ensuite par rapport au contrat de travail, mais aussi selon le niveau de la négociation. Alors, dans un premier temps, la primauté, donc les ordonnances, consacrent la primauté du droit négocié sur la règle légale. Pourquoi? Parce que, dorénavant, on peut considérer que le Code du travail, c'est-à-dire la loi, hein, généralement, eh bien, ne s'appliquera plus que dans deux cas. Simplement quand les partenaires sociaux n'auront pas négocié, c'est-à-dire que la loi sera supplétive, ou alors pour fixer un socle, un plancher de protection pour les salariés. Je vous donne un exemple, le SMIC, la règle selon laquelle les salariés doivent être payés au moins au SMIC, eh bien, c'est une règle qui est légale et il est totalement impossible pour les partenaires sociaux de revenir sur cette règle. Alors, de manière plus surprenante, le CDD, par exemple, qui était traditionnellement prévu dans le Code du travail, devient régi par les partenaires sociaux lors de la négociation collective. Alors, maintenant, la position des différents droits négociés entre eux. Il s'agit notamment de positionner le droit qui va être négocié au niveau de l'entreprise par rapport au droit qui va être négocié au niveau de la branche. Alors, le principe qui s'appliquait jusqu'ici, que vous connaissez, c'est le principe de faveur qui stipule qu'une règle de niveau inférieur peut déroger à une règle de niveau supérieur à condition que cela se fasse dans un sens favorable aux salariés. Alors, ce principe est battu en brèche déjà depuis de nombreuses années. La première brèche, ça a été la loi Fillon du 4 mai 2004, qui a permis donc aux accords d'entreprise de déroger aux accords de branche, donc dans un sens défavorable aux salariés. Mais à ce moment-là, il y avait quand même une possibilité qui était laissée aux rédacteurs de la convention donc, de branche, c'était de verrouiller
par la convention de branche, cette possibilité pour les partenaires donc, d'entreprise, donc, afin que ceux-ci ne prévoient pas de règles inférieures. Donc, à partir du moment où les rédacteurs de la convention de branche, par une clause de verrouillage, disaient la négociation au niveau de l'entreprise ne pourra pas prévoir de règles inférieures, eh bien, on n'avait pas ce risque et les salariés avaient l'assurance d'être protégés au moins au niveau de la branche. Puis est intervenue la loi Bertrand de 2008, qui, elle, a maintenu simplement, qui a prévu quatre secteurs dans lesquels les clauses de verrouillage n'étaient plus possibles. Alors, ces secteurs, effectivement, qui ont été les premiers exposés, ça a été surtout le secteur de la durée et de l'aménagement du temps de travail. Ensuite, la loi El Khomri, donc, a poursuivi cette évolution en prévoyant notamment que pour certains thèmes, eh bien, l'accord d'entreprise devenait la règle. C'était notamment le cas en matière donc, de durée, d'aménagement du temps de travail, en matière de repos et en matière de congés. Mais parallèlement, cette loi prévoyait que la convention de branche pouvait verrouiller assez largement encore la négociation. Donc au final, l'ordonnance que l'on présente comme étant révolutionnaire ne l'est pas tant que ça, car c'est plutôt la poursuite d'un processus qui est engagé depuis plusieurs années. Alors quel est l'apport de l'ordonnance à ce niveau-là ? Donc, l'ordonnance prévoit donc que l'accord d'entreprise devient la norme. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur tous les domaines, dans tous les domaines, le droit peut être élaboré au niveau local, au niveau de l'entreprise. Alors cependant, l'ordonnance fixe quand même des limites, donc ce qu'on appelle des verrouillages, sachant que les verrouillages peuvent être de deux natures. Donc il peut s'agir, d'un verrouillage absolu. Pourquoi d'un verrouillage absolu ? Car dans certains domaines, 13 au total, donc les domaines les plus sensibles, comme les salaires minima, la classification, la loi prévoit qu'il est impossible pour un accord d'entreprise de déroger à l'accord de branche. Alors sur d'autres domaines, donc 4, eh bien, la loi offre la possibilité donc, à la convention, c'est-à-dire au rédacteur de la convention de branche, de s'opposer à ce que la négociation d'entreprise prévoit des règles inférieures. Donc là, j'ai envie de dire que c'est un verrouillage qui est facultatif. En conclusion, sur cette première partie concernant la hiérarchie des sources, on peut dire que l'accord d'entreprise devient aujourd'hui la norme. Le droit ne s'élabore plus au niveau national dans le bureau, au sein de l'Assemblée nationale, mais au sein des entreprises avec les partenaires. D'autant plus que, concernant les 17 domaines que l'on a vus, qui peuvent faire l'objet d'un verrouillage, eh bien, un accord d'entreprise pourra toujours s'appliquer s'il comporte des garanties au moins équivalente. Donc je vous laisse porter un jugement sur le caractère flou de cette formulation et sur le contentieux qui risque de découler de cette formulation. Donc le principe de faveur est de plus en plus souvent mis à l'écart, on pourrait même dire exit le principe de faveur. Or, il faut savoir que eh bien, plus le droit s'élabore localement, plus les salariés perdent en sécurité. Alors, maintenant, la hiérarchie, en fait, la place du droit négocié, cette fois, donc, par rapport au contrat de travail. Alors, avant même l'ordonnance Macron, l'ordonnance 1385, il était possible pour l'employeur de prévoir par un contrat, la négociation d'entreprise, par un contrat, donc des règles qui allaient s'appliquer aux salariés, même si ces règles étaient défavorables par rapport aux règles qui existaient déjà dans leur contrat de travail. Donc c'était possible. C'est ce qu'on appelait notamment les accords de maintien de l'emploi, de préservation ou de développement de l'emploi. C'était également la possibilité de réduire la durée du travail pour les salariés ou de les rendre plus, plus mobiles. Alors, ces possibilités sont apparues progressivement, ce qui en a fait au final un régime assez complexe, car chaque type d'accord répondait à un fonctionnement propre. Donc cela générait beaucoup de complexité. Par contre, avant l'ordonnance, l'entreprise devait justifier de difficultés économiques. Ça veut dire que pour pouvoir conclure un tel accord, il fallait que l'entreprise soit confrontée à des difficultés économiques, d'où la notion de maintien de l'emploi, de développement, de préservation de l'emploi, de mobilité interne. Alors, qu'apporte l'ordonnance de 1385 par rapport à la réglementation antérieure? Alors déjà, pour plus de simplicité, un dispositif unique fusionne les dispositifs antérieurs. C'est ce qu'on va appeler donc un accord, c'est la possibilité donc de conclure un accord de compétitivité. Changement, cet accord de compétitivité peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. Alors qu'auparavant, ces accords étaient forcément conclus pour une durée déterminée, car l'objectif, c'était d'imposer des sacrifices aux salariés le temps des difficultés de l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite de temps. Alors, cet accord donc, conserve grosso modo les mêmes domaines que précédemment. Ce sera donc des accords qui permettront d'aménager la durée du travail, la rémunération, ainsi que la mobilité interne. Et donc, quand un tel accord sera conclu, eh bien, il se substituera de plein droit aux clauses contraires et incompatibles qui peuvent se trouver dans le contrat de travail. Ce qui peut, pour un juriste, constituer une formidable remise en cause du principe de la force obligatoire des contrats. En effet, la négociation collective pourra remettre en cause ce que la négociation individuelle aura construit. Alors, cet accord d'entreprise pourra, par exemple, intervenir non seulement en cas de difficulté économique de l'entreprise, et c'est là la grande nouveauté, vous allez voir que ça a des implications très sérieuses pour les salariés, mais également pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise. Donc pour la deuxième fois, je vous interroge sur cette formulation. Qu'est-ce que c'est en fait qu'une nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise ? On pourrait penser aux difficultés de l'entreprise, mais bon, si le législateur a cru bon de préciser cette notion, on ne sait pas dans quelle manière les employeurs pourront s'engouffrer dans cette possibilité. Et donc, là encore, de beaux contentieux en perspective donc, pour les conseillers prud'homaux. Donc, la conséquence, c'est que... Alors, attention, hein, ça ne pourra pas être imposé aux salariés. Le salarié aura, comme auparavant, toujours la possibilité de s'opposer, parce qu'on ne peut pas, on ne peut jamais imposer à un salarié une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail. Donc, les salariés pourront continuer à s'opposer. Ils auront un mois pour cela. Mais s'ils refusent auparavant... Donc, l'employeur pouvait décider de les licencier, mais comme c'était des difficultés économiques qui justifiaient la conclusion d'un tel accord, le licenciement qui en résultait avait forcément un motif économique. Et donc, le salarié pouvait bénéficier des mesures de protection attachées au licenciement pour motif économique, en matière notamment de priorité de réembauchage et en matière notamment donc de dispositifs de prévention et d'accompagnement, comme le contrat de sécurisation professionnelle. Donc, exit ces mesures. Aujourd'hui, le salarié pourra être licencié pour un motif sui generis, c'est-à-dire un motif qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc, il ne pourra pas bénéficier de ces mesures de protection. Alors, maigre consolation, l'employeur devra toutefois abonder son compte personnel de formation à hauteur de 100 heures et il pourra, comme auparavant, continuer donc à bénéficier de l'assurance chômage. Donc voilà pour le premier point sur les impacts sur la hiérarchie des sources donc, à trois niveaux, au niveau de la loi, au niveau donc des textes négociés entre eux et par rapport au contrat de travail. Alors maintenant, à titre secondaire, nous allons examiner les impacts de l'ordonnance, notamment sur le rôle des partenaires sociaux dans l'entreprise. Donc, les partenaires sociaux, donc, comme je le disais, regroupent d'une part côté salarié les syndicats et d'autre part les organisations syndicales. Donc, les concepteurs des ordonnances sont quand même partis de quelques constats. C'est qu'aujourd'hui, le monde syndical connaît une crise de légitimité liée donc à la faiblesse du taux de syndicalisation qu'on évalue actuellement à moins de 10%, sans doute plus proche de 6 à 7%. Deuxième élément, c'est que dans l'opinion publique notamment, les syndicats sont davantage perçus comme un contre-pouvoir, plutôt comme des partenariats. Or, l'accroissement du rôle du droit négocié rend nécessaire un climat de confiance entre ces partenaires et un dialogue social pérenne dans un rapport de force équilibré. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que, justement, l'ordonnance parvient à assurer cet équilibre ? Alors, d'un côté, on peut dire que, d'un point de vue mécanique, du fait du renforcement de la négociation d'entreprise, eh bien, elle renforce le rôle des partenaires sociaux. D'autre part, elle prévoit également la généralisation des accords majoritaires. Alors, en effet, à partir du moment où on considère que l'accord d'entreprise devient la norme, notamment par rapport à l'accord de branche, il y avait une vraie volonté, une véritable volonté de donner plus de légitimité aux accords d'entreprise, mais il y avait également une volonté donc de responsabiliser les organisations syndicales, notamment par rapport à ce que je vous disais, par rapport à la perception donc de leur rôle. Donc, à compter du 1er mai 2018, l'accord majoritaire deviendra la norme. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que pour qu'un accord puisse être conclu, eh bien, les syndicats qui vont le signer doivent être représentatifs d'au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Alors, auparavant, la règle était moins exigeante, car il suffisait d'une majorité de 30%. Alors, cependant, il ne fallait pas, en fait, qu'il y ait une opposition de la part de syndicats qui, eux, représentaient au moins 50% donc, des suffrages exprimés. Alors, la loi El Khomri avait déjà prévu ce principe de l'accord majoritaire, mais simplement dans certains domaines. Et la loi El Khomri avait prévu de généraliser cet accord majoritaire le 1er septembre 2019. L'ordonnance ne fait qu'avancer de quelques mois, cette généralisation. Alors, cette mesure a fait l'objet notamment de nombreuses critiques de la part des entreprises qui avaient déjà beaucoup de difficultés parfois à obtenir le seuil des 30%. C'est pour ça qu'une nouvelle disposition a été mise en place, comme la possibilité de recourir au référendum. Donc là, ça veut dire donc à la limite de se passer de l'influence syndicale. Donc, référendum donc, à la majorité des salariés, donc pour éviter les blocages. Alors, cette initiative se fera donc de la part des organisations syndicales représentatives, à condition que celles qui vont le demander aient obtenu au moins 30% donc, des suffrages exprimés aux dernières élections. Mais il sera également possible, et ça c'est la nouveauté justement de l'ordonnance, il sera également possible pour les employeurs, donc qui n'arrivent pas à voir aboutir donc la négociation collective, de solliciter ce référendum, c'est-à-dire de soumettre l'accord qui ne passerait pas au niveau syndical par l'intermédiaire de leurs salariés. Alors cela implique cependant que ce soit dans un second temps, hein, après donc que les organisations syndicales aient renoncé à ce droit, et ensuite à condition que les organisations syndicales ne s'y opposent pas. Alors, la diminution de l'influence syndicale s'observe également dans les petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Il faut savoir que, je vous l'ai dit tout à l'heure, en principe, quand les délégués syndicaux existent dans une entreprise, c'est eux qui ont le monopole de la négociation dans l'entreprise. Ceci étant dit, pour qu'un délégué syndical soit obligatoirement désigné, il faut que l'entreprise ait au moins 50 salariés. Or, beaucoup d'entreprises ont moins de 50 salariés et en réalité, donc 4% des entreprises de moins de 50 salariés comportent un délégué syndical. Or, même les petites entreprises ont le droit de bénéficier du droit négocié à l'échelon local. Donc, dans les entreprises, donc l'ordonnance prévoit que dans les entreprises de moins de 11 salariés, alors pourquoi moins de 11 salariés ? Car ce sont des entreprises dans lesquelles il n'y a aucune obligation d'élire un représentant du personnel. Donc, pas de délégué du personnel obligatoire, donc pas de futur CSE non plus, car ce sera le seuil donc de la mise en place du CSE. Et également dans les entreprises de 11 à 20 salariés, car c'est souvent que dans ces entreprises, il n'y a pas non plus de représentants du personnel élu, faute généralement donc de candidats. Et donc, dans ce type d'entreprise, eh bien, auparavant, donc il n'y a pas de représentants syndicaux, il n'y a pas de délégués syndicaux et il n'y a pas de représentants élus. Donc, comment se faisait la négociation ? Eh bien, les organisations syndicales pouvaient donner mandat à un salarié, donc on parlait de salarié mandaté, pour que ce salarié négocie avec l'employeur. Donc il y avait quand même cette influence syndicale, car ce sont les syndicats qui décidaient de mandater un salarié. Donc, avec les ordonnances, eh bien, l'employeur pourra dorénavant soumettre un accord qu'il aura élaboré seul à référendum à la majorité des deux tiers des salariés. Donc, voilà pour les impacts sur le renforcement et l'affaiblissement des syndicats. Je vais finir la présentation par justement un exemple de recours au droit négocié avec la mise en place de la rupture conventionnelle collective dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Donc cette nouvelle modalité de rupture du rapport d'emploi, j'ai bien retenu le terme qui figure dans le référentiel, donc figure dans l'ordonnance 1387, donc c'est la troisième ordonnance. Alors, c'est un dispositif de rupture qui est applicable depuis le 1er janvier 2018 et qui part de la volonté du gouvernement, notamment de sécuriser les plans de départ volontaire qui étaient jusqu'ici simplement encadrés par la jurisprudence et qui étaient donc source d'insécurité. Il fallait également permettre à l'employeur de réembaucher tout de suite après ce plan de départ volontaire, alors qu'auparavant, l'employeur devait attendre un an pour pouvoir réembaucher. Alors, pour justement mettre en place une telle modalité de rupture, eh bien, l'employeur doit négocier au sein de l'entreprise un accord majoritaire qui va donc prévoir les différentes modalités donc, de cette rupture, notamment donc, comment on informe et on consulte le CSE, combien de départs maximum on va devoir prévoir, ensuite comment se fera le départage entre les salariés qui seront candidats au départ, parce qu'il y a une prime à la source, donc du coup certains salariés seront intéressés, et comment donc ils seront donc indemnisés. Alors, côté validation par la directe, les règles sont identiques à la rupture conventionnelle individuelle. Et par contre, les conséquences sont assez saisissantes également, car en cas d'acceptation par l'employeur donc d'une candidature de rupture conventionnelle de la part du salarié, eh bien la rupture sera analysée également comme une rupture d'un commun accord. Cela signifie que les salariés ne bénéficieront ni de la législation, ne bénéficieront pas de la législation du licenciement, et notamment de la législation du licenciement pour motif économique. On prend le raisonnement que l'on a eu tout à l'heure, le salarié n'aura pas les avantages qui sont attachés, même s'ils pourront également bénéficier de l'assurance chômage. Alors, en conclusion, ou que j'aille vite. Alors, il est trop tôt pour faire un bilan. L'objectif de cette ordonnance, clairement, c'était donner de la flexibilité aux entreprises. Et l'espoir, c'est donc, en flexibilisant le marché du travail, de renforcer les embauches par, j'ai envie de dire, la facilité de se défaire d'un contrat de travail. Alors, 47% des employeurs, alors c'est une étude de l'Observatoire social de l'entreprise qui date de décembre 2017. 47% des emplois approuvent cette évolution du droit du travail. 42% des salariés y étaient hostiles. Ce n'est pas un scoop. Alors, plus surprenant, justement, cette étude montre que aucun impact positif ni sur l'emploi ni sur le dialogue social n'est attendu de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois de la part des employeurs et de la part des salariés. Et même 59% des employeurs déclarent qu'ils n'embaucheront pas davantage en CDI dans les 6 mois prochains, alors que leur confiance dans l'embellie économique n'a jamais été aussi forte depuis 2009. Voilà. J'espère que j'ai tenu votre temps.